Je vais vous présenter notre prochain sujet de discussion d'une heure dans quelques minutes. Mais avant, il y a quand même cette nouvelle importante pour tous les fans du Canadien et les fans de hockey qui nous écoutent. Et c'est bien sûr la nouvelle concernant Jonathan Drouin qui vient d'être annoncé. Jonathan Drouin qui sera absent pour des raisons personnelles. On va tout de suite aller rejoindre Martin McGuire, descripteur des matchs du Canadien sur notre réseau Cogeco. Bonjour Martin.
Bonjour Isabelle.
Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Ben écoute, pas grand-chose, si ce n'est que vous faire un cours historique des événements. Le Canadien, la semaine dernière, on le sait, est parti pour un voyage de 5 parties en Alberta. Ça avait commencé par 2 matchs contre les Oilers et ensuite 3 matchs contre les Flames de Calgary. Et tout à coup, à Calgary, Jonathan Drouin a fait une période d'échauffement et il n'a pas été en mesure de jouer ce soir-là. Il a encore été retiré des 2 autres matchs qui ont suivi à Calgary. Le mystère était assez grand parce que dès le départ, on nous a dit que Drouin était malade et qu'il ne s'agissait pas de la COVID. Et un peu plus tard, dans les points de presse, il a filtré quelques mots ici et là qui sont sortis de la bouche de l'entraîneur Dominique Ducharme à l'effet que Jonathan Drouin avait à peu près pas quitté sa chambre d'hôtel à Calgary pendant que l'équipe était là-bas. Alors, puisqu'on avait d'ores et déjà exclu la COVID. On se demandait bien ce qui pouvait arriver à l'attaquant du Canadien. Eh bien là, ça vient de tomber. On n'a pas plus de nouvelles. Est-ce que c'est d'ordre mental, tout ça? Est-ce que c'est de la fatigue mentale?
L'épuisement, Martin.
Oui, est-ce qu'effectivement Jonathan Drouin est atteint de quelque chose qui est d'ordre médical et que l'organisation ne désire pas communiquer ou que Jonathan Drouin ne souhaite pas parler publiquement. Je pense qu'à partir de ce moment-là, tout est ouvert comme possibilité, mais la résultante, c'est qu'il est absent pour une longue période. Là. On dit une période indéterminée, mais puisqu'on a placé son nom sur la liste des blessés à long terme, là, on sait que c'est minimum 10 jours. Alors, minimum 10 jours, là, ça nous mettra pas en série, mais pas loin, là, dans les derniers moments de la saison régulière. Alors, on aura peut-être plus de détails à vous donner, là, lorsque Dominique Ducharme, l'entraîneur-chef du Canadien, va rencontrer les médias dans quelques instants, après la pratique qui a cours là. Mais si des gens se demandaient là, si on était pour être en mesure de garder Cole Caulfield avec l'équipe pour des raisons de masse salariale, ben là, on peut vous confirmer que s'ils veulent le garder, ils vont pouvoir le garder parce que la ponction salariale faite par le retrait de Drouin est de l'ordre de 5 millions. Là. Alors, je sais que c'est compliqué pour les gens, Isabelle, mais ce que je veux simplifier pour que les gens nous comprennent, c'est que maintenant, le Canadien aura le loisir de garder Caulfield avec l'absence indéterminée de Drouin pour des raisons personnelles. On n'a pas à se soucier du plafond salarial. Le Canadien a largement la marge de manœuvre nécessaire.
OK. Mais comment ça marche, là? Je veux pas faire plus long qu'il faut là-dessus.
Martin, non,
mais justement,
je
sur la question du salaire, Jonathan Drouin, j'imagine qu'il est... il est en période donc de repos, puis on espère qu'il va se remettre, là, surtout si c'est des problèmes. Parce que je pense qu'il y a un petit historique aussi. Il me semble qu'à l'époque, il y avait déjà, dans son autre équipe, un peu de misère. Hein?
En fait, c'était avec le
Lightning de Tampa.
Lightning, ce qui est arrivé avec le Lightning, c'est qu'on l'avait renvoyé dans leur club-école. Dans les mineurs, pour essayer d'aller parfaire son jeu un petit peu. Il était jeune à ce moment-là. Et lui, sous les conseils de son agent à l'époque, avait refusé de se présenter au club école. Il avait dit, moi, j'irai pas jouer au club école, avec le club école. Alors, pendant un certain temps, il est resté sur les lignes de côté. Il est resté chez lui, demandant une transaction. Et c'est pas à ce moment-là qu'il a été échangé au Canadien, parce que après, il s'est présenté avec le club école du Lightning. Je pense qu'à ce moment-là, il s'agissait d'une stratégie là, pour lui et son agent de mettre de la pression sur le club pour obtenir une transaction. J'ai pas l'impression qu'on est là avec Jonathan Drouin maintenant. Je pense qu'on est vraiment dans l'ordre de il file pas. Ça va pas bien, là. Les performances sont pas au rendez-vous et tout ça.
Le monde l'a dit. puis le monde l'a dit.
Puis il y a une pression énorme sur lui. Est-ce qu'il aura craqué? Est-ce qu'il a besoin de se reposer? Est-ce, comme on dit, on ne sait pas si c'est mental ou si encore ça cache quelque chose là sur lequel il y a une cause vraiment médicale derrière tout ça. Ça, c'est à partir du moment où l'athlète veut pas donner aucune information publique, c'est son droit. On verra bien ce que le Canadien va faire là, mais pour l'instant, ce qu'on sait, c'est ça. Puis dans le cas de Jonathan, ben c'est toujours l'énigmatique joueur offensif avec un talent inouï, mais pour qui les résultats sont pas au rendez-vous. Il y a des raisons sur le plan hockey, sur le plan de son jeu pour ça. Mais ce sont quand même des choses qui étaient surmontables. Tu sais, ça demeure de « je joue de cette façon-là, mais il faudrait peut-être que je modifie ma façon de jouer ». Et pour ajouter à tout ça, là, je te donne l'information, parce qu'au moment où on se parle, l'équipe s'entraîne pour se préparer au match de ce soir.
De ce soir contre les Leafs, à Montréal.
Contre les Leafs, un match important, bien sûr. Alors, bien évidemment, là, il y a aussi, les mauvaises nouvelles ne viennent jamais seules, là, mais Tomáš Tatar et Paul Byron, qui étaient des éclopés du dernier voyage, ne sont pas sur la glace ce matin. Alors, est-ce que ça signifie qu'on les aura pas tous les deux pour le match de ce soir? Dans le cas de Byron, je suis pas surpris, parce que Byron a pas été capable de jouer le dernier match. Mais Tomáš Tatar, lui, avait été quand même capable de revêtir l'uniforme, mais là, pour l'instant, il n'est pas là. Alors, c'est le tableau au moment où on se parle là, pour le match de ce soir, mais je rappelle aux gens en conclusion là, que Jonathan Drouin est retiré de la formation. Il est retiré pour des raisons personnelles, et qu'on a placé son nom sur la liste des blessés. Et le jeune Cole Caulfield va vraisemblablement poursuivre son aventure avec le grand club.
Oui, parce que je pense que la façon dont ça fonctionne, le salaire, c'est... tu nous expliqueras, là, Martin, mais le joueur est payé quand même sur la liste des blessés, mais ça compte pas pour la masse salariale.
C'est ça. Il y a une masse salariale à respecter qui est le maximum de 81,5 millions. Tu peux avoir 20 joueurs ou 23 joueurs maximum, mais il faut que tu respectes le 81,5 millions. Puis là, ben, en retranchant le 5 millions et quelques virgules du salaire de Jonathan Drouin, là, à ce moment-là, le club a cette marge de manœuvre de 5 millions. Mais il continue à le payer, là, ne vous en faites pas, là. On honore les contrats, c'est juste que ça n'apparaît pas sur la masse salariale, et dans les circonstances, ben, c'est quand même une aide importante si on peut conclure qu'actuellement, le Canadien a l'air plus motivé à poursuivre avec Cole Caulfield que faire quelque autre chose.
Voilà. Si c'est une question de santé mentale, c'est sûr qu'il faut vraiment envoyer toute notre empathie au jeune Jonathan Drouin. Il a juste 26 ans. De toute façon, peu importe l'âge. L'épuisement professionnel, écoute, on dit souvent que tout est dans tout, mais c'est notre sujet de la prochaine heure.
Ben écoute,
on parle de ça, puis je pense que les sportifs en ce moment, c'est pas évident, Martin, quand même, d'avoir des pseudo-séries qui s'en viennent, là. Qu'est-ce que tu veux? Ils jouent pas comme d'habitude, c'est clair. Ça doit influencer leur morale à tous. D'ailleurs, là, Price qui a une commotion cérébrale, t'as beau te dire ça va bien aller, on a de la misère à le croire.
Non, puis il est pas là. Pour que les gens se demandent, là, il a pas eu d'entraînement pour lui là seul, alors il est pas encore de retour sur la glace. Il y a Brendan Gallagher qui est en train encore d'essayer de battre les pronostics des médecins, mais lui, là, il patine. Il a patiné un petit peu hier là, pendant que les autres étaient en congé, mais c'est parce que c'est sa main qui est brisée, là. Ça ne l'empêche pas de patiner. À partir du moment où on l'a opéré et on lui a mis un plâtre, ben là, il peut aller sur la glace puis patiner. Mais on ne parle pas d'un joueur qui est à la veille de revenir.
OK. Ben écoute, on va t'écouter ce soir parce qu'il y a le match, donc l'émission d'avant-match 19h30 sur nos ondes, et puis le match des Maple Leafs à Montréal.
Et soyez à l'écoute là, parce que au fur et à mesure que la programmation va avancer dans la journée au 98.5 et partout au réseau là, s'il y a des précisions qui sont données là supplémentaires dans le cas de Drouin, on sera en mesure de vous les donner.
Ben écoute, te gêne pas, d'ici la fin de mon émission à midi, là, tu me rappelles si tu en sais plus, bien sûr.
Je pense que la pire chose qu'on peut faire actuellement, c'est spéculer puis s'imaginer toutes sortes de choses là. Mais c'est bien évident que pour moi là, le Canadien va être obligé de donner une ou deux explications, si bien sûr Jonathan Drouin accepte que ces explications-là soient données.
Un pauvre petit, il est pris dans sa chambre d'hôtel.
Là, il n'est plus dans sa chambre d'hôtel, par contre.
Oui, bien, il a dû sortir, j'espère.
Il a sorti.
Écoute, on lui souhaite le plus grand des rétablissements. Merci beaucoup, Martin McGuire.
Au revoir, Isabelle.
Merci. Toujours délicat, ce genre de nouvelles-là. Puis bon, comme le dit Martin, on peut spéculer, mais vous savez, et je disais que c'était en lien avec notre prochain sujet. Aujourd'hui, il y a une nouvelle qui est sortie selon un sondage de Sage Canada, il y a près du tiers des travailleurs canadiens qui se disent sur le bord de l'épuisement professionnel cette année. Ça, c'est plus de 30 % des travailleurs qui disent « moi, je suis sur le bord du burn-out ». Une personne sur trois qui est sur le bord d'imploser. Là. Plus capable, plus capable. Puis ça, je pense que c'est important d'en parler, puis ça va être notre discussion. Pour ça, je vais vous présenter le docteur Serge Marquis tout de suite après la pause. Vous le connaissez parce que c'est notre un de nos médecins préférés. Il a écrit « Pensouillard, le petit hamster ». Vous savez, ce hamster qui tourne dans notre tête puis qui nous pollue souvent la vie et nos nuits, qui nous empêche d'avoir une espèce de sagesse et surtout de paix intérieure. Et c'est sûr qu'en ce moment, quand ça va vite, quand on se sent un peu en survie, je pense que depuis la pandémie, c'est ça. Notre état à tous, c'est d'être en mode survie et hypervigilance. L'hypervigilance, là, c'est fatigant, l'hypervigilance. C'est épuisant, là. C'est épuisant au travail, c'est épuisant dans nos vies personnelles. C'est un peu là-dessus que j'aurais envie de vous entendre aussi. Je vous donne le numéro pour nous joindre au fil de la prochaine heure, 514-790-9850, 1-866-790-9850. Dites-moi si vous vous sentez parfois là, sur le bord comme ça. Des fois, c'est juste les larmes qui te montent. Là. Tu as envie de pleurer, tu sais pas pourquoi. Tu dis, me semble que je vais pas bien. En tout cas, je vais moins bien que d'habitude. Des fois, c'est l'épuisement qui est pas loin. On va en parler avec le docteur Marquis et j'ai hâte de vous entendre là-dessus. À tout de suite, tout le monde.
Fatigué d'habiter sur la planète Terre, sur ce brin de poussière, sur ce caillou minable, sur cette fausse étoile perdue dans l'univers, berceau de la bêtise et royaume du mal. Fatigué, fatigué.
Je suis en compagnie du docteur Serge Marquis. Serge Marquis, que vous connaissez bien parce que il a écrit le best-seller « Pensouillard, le hamster ». Et c'est un livre où, entre autres, on s'en est souvent parlé avec le docteur Marquis. Il nous rappelle qu'il faut à tout prix aider notre hamster à éviter de tourner sans cesse dans sa petite roue pour notre mieux-être intérieur. Et il y a tellement eu de questions au fil des ans depuis ce livre qui a été traduit. Il fallait à tout prix qu'il y ait une suite. Ils viennent publier « Connais-toi toi-même ». Oui, mais comment faire? La fameuse question de Platon. Platon qui nous a laissé avec ça, en fait. Ou plutôt, c'est plutôt Socrate, je pense, hein? Docteur Marquis, bonjour. C'est Socrate, j'étais dans l'univers avec mon Platon.
Mais c'est effectivement.
Ouais, c'est quand même Socrate qui a dit connais-toi toi-même. Puis là, avec cette grande question où oui, c'est bien beau de le faire, mais comment? Ouais. Je suis un peu perturbée par Jonathan Drouin. C'est quand même une nouvelle importante. Puis c'est la grande nouvelle qui vient de sortir. On vient d'en parler avec Martin McGuire. Puis je pense que ça met tout le monde un peu en dessous. Parce que, bon, sans faire trop d'hypothèses, c'est fort possible qu'il y ait là-dessus ou derrière ça peut-être un certain épuisement professionnel. Ça serait pas étonnant de la part d'un joueur sportif, professionnel comme ça, puisque le tiers des travailleurs sont susceptibles de déclarer un épuisement professionnel cette année. C'est un sondage qui sort aujourd'hui qui nous le rappelle à quel point notre santé mentale est fragile.
Ah oui, tout à fait. Puis... Bon, Jonathan Drouin, comme disait Martin McGuire, la pire chose, ce serait de spéculer. Sauf qu'on peut quand même, je peux quand même dire, moi, que depuis un certain temps, je me dis, ce gars-là doit vivre une tension, une pression incroyable. On parle de lui presque tous les jours. Il y a des critiques à gauche et à droite de toutes sortes. C'est un jeune qui, ne peut pas être ignorant de ça, hein. C'est des choses dont il doit entendre parler. On a beau dire qu'il va pas nécessairement sur les réseaux sociaux, il y a quand même toujours quelqu'un quelque part pour lui rappeler ça. Et ça, c'est un bel exemple de ce qui se passe en rapport avec l'épuisement dans notre société actuellement. Une société où on met beaucoup l'accent sur la performance, la réussite à tout prix, l'excellence, où on nous fait associer réussir sa vie avec être toujours le meilleur, réussir sa vie avec toujours performer, etc. Et quand on est dans un univers comme celui-là, bien sûr, un jour ou l'autre, on peut être face à des questions du genre, est-ce que je suis en train de réussir ma vie? Moi, si je suis pas le meilleur, est-ce que je suis en train de réussir ma vie? Moi, si je performe pas, si je suis pas quelqu'un aux yeux des gens qui m'entourent, etc. Et ça peut nous amener vraiment au niveau psychologique, là, à ce qui est conduit au burn-out. J'ai soigné du monde, moi, pendant 30 ans, hein, des gens qui avaient craqué au travail, puis quand ils arrivaient dans mon bureau, ils disaient toujours, écoutez, je sais plus qui je suis. Là, quand on dit ça, on est dans une question identitaire. Et il disait, je sais pas où je m'en vais dans la vie. Là, on est dans une question de sens. Quel sens on donne à sa vie? Et c'est là-dessus que les gens doivent travailler quand ils arrivent à l'étape de burn-out dans leur vie. Alors, dans une société comme la nôtre, là, c'est beaucoup de gens peuvent être susceptibles de frapper ce mur-là.
Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à un moment, Dr. Marquis, où on craque? Qu'est-ce qui nous fait craquer?
Il y a un gars qui s'appelle Fred Erdberger, hein, c'est le premier à avoir parlé du burn-out dans l'histoire de l'humanité. C'était dans les années 70. Puis il avait décrit 4 étapes, et j'ai toujours trouvé ça extraordinaire pour décrire ce que c'était le burn-out. Il disait que la première étape, c'était des idéaux irréalistes, des objectifs irréalistes. Et souvent, c'était pas les nôtres. C'était des objectifs qu'on avait intégrés dans l'organisation où on était, puis qui correspondaient pas nécessairement à ce que nous sommes, sauf qu'on s'en rend pas compte. On sait pas pour Jonathan Drouin, mais il y avait certainement des idéaux très élevés, des attentes très élevées à son égard.
Puis la deuxième. Mais quand tu fais partie de l'alignement du Canadien de Montréal, oui, c'est sûr.
Ouais, puis quand on sait pas si c'est ce qui se passe pour lui, là, mais c'est sûr que beaucoup de jeunes qui vivent ça, mais c'est pas nécessairement juste des gens de n'importe quel âge. Puis la deuxième étape, c'est le plafonnement. On a beau donner tout ce qu'on a, travailler super fort, arrive un moment où on a l'impression de pas répondre aux attentes. On a l'impression de pas arriver à réaliser les idéaux qui sont placés sur soi. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on travaille encore plus fort, puis les fins de semaine, puis le soir, puis même on se lève la nuit pour travailler, puis etc. Puis on y arrive toujours pas. Ben là, on tombe dans la troisième étape, qui est la désillusion. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une étape où, autour de nous, les gens commencent à avoir des changements en nous. Et ils nous le disent. Hey, je te reconnais plus là, fais quelque chose. Parce que on commence à être irritable, impatient, alors qu'on l'était pas avant. Et autour, tant dans le travail qu'à l'extérieur du travail, il y a des personnes qui nous le font remarquer. Hey, si tu fais pas quelque chose, nous on peut plus continuer à tolérer ça. Et la personne nie. Elle dit, parce qu'elle croit toujours que si elle arrive à atteindre les idéaux placés sur elle ou les attentes qu'elle a elle-même, elle va finir par pouvoir dire qu'elle a réussi sa vie puis qu'elle a atteint l'excellence. Alors, elle n'écoute pas ce que les gens disent. Donc, elle continue. Puis là, elle prend des médicaments, parfois beaucoup de café pour se booster le matin. Alors, il y a des substances qui sont consommées dans cette étape-là. Et là, ben malheureusement, si ça marche toujours pas, ben, elle tombe dans la quatrième étape, qui est le burn-out proprement dit, là, le découragement total. Et à cette étape-là, la personne ne fonctionne plus. Vraiment, elle a besoin d'aide. Puis c'est là qu'elle peut être accompagnée, même professionnellement, pour sortir de ça, puis tirer des apprentissages de ce qu'elle vient de vivre, c'est-à-dire mieux se connaître, hein, rencontrer certaines limites en rapport avec ce qu'elle veut être, ce qu'elle souhaite être, puis respecter ces limites-là. Faire des choix, des priorités, revoir les priorités de sa vie. Et c'est dans ce cheminement-là qu'elle peut retomber sur ses pattes éventuellement, puis fonctionner autrement en plaçant des limites, puis en étant capable de faire des choix qui correspondent à ce qu'elle veut vraiment faire de sa vie.
Est-ce que quand on est en burn-out, on fonctionne plus du tout ou il y a des gens qui sont malgré tout en épuisement professionnel qui vaquent à leurs occupations, qui fonctionnent? Ou il y a peut-être beaucoup de présentéisme aussi, remarquez, là, on le dit au fil des ans, des gens qui se présentent mais sont pas là, puis sont épuisés, mais ils cachent. Est-ce qu'on peut le cacher, son burn-out, en fait, Dr. Marquis?
Le plus grand problème, c'est qu'on se le cache d'abord à soi-même. On veut pas le voir. Puis c'est là qu'on fait du déni et qu'on essaye. Les gens y essayent encore. Et puis, de toutes sortes de façons. Et c'est là, effectivement, qu'ils peuvent essayer de cacher aussi aux autres à travers toutes sortes d'attitudes qui, malheureusement, font en sorte que les personnes autour ne voient pas nécessairement toute l'ampleur de ce que les personnes vivent, mais voient des signes, cependant. Quand je disais tout à l'heure, là, les gens qui se mettent à péter les plombs alors qu'ils faisaient jamais ça avant, qui envoient promener tout le monde parce qu'ils veulent pas qu'on voit ce qu'ils sont en train de vivre. Ils veulent s'en sortir par eux-mêmes.
Puis parce que c'est un signe de faiblesse, c'est perçu comme ça, Dr. Marquis. Je ne sais pas pourquoi. Avez-vous trouvé, vous, la réponse qui fait qu'aujourd'hui, c'est tabou encore dans les milieux professionnels? C'est pas forcément bien vu, là. Puis c'est pas bien vu forcément de s'épandre non plus, de s'épancher sur comment on se sent au travail. T'sais, on nous dit « ça va-tu bien? » Oui, t'es mieux de répondre oui, là, parce que sinon, le monde veut pas vraiment savoir c'est quoi qui se passe dans ta vie. Fait que c'est perçu comme un signe de faiblesse, fait qu'on le tait. Mais pourquoi? C'est pas parce qu'on est plus faible que les autres, là, si on s'épuise.
Ben, pas du tout. C'est qu'on est un être humain. Un être humain, c'est un être qui a des limites, c'est un être qui est vulnérable. Bien sûr, c'est intéressant d'avoir des défis dans la vie. C'est même nécessaire d'avoir des défis dans la vie pour développer son potentiel, ses ressources, ses capacités. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de limites. Puis les limites, il y en existe. Pour tous les êtres humains. Dans une journée, il y a 24 heures, dans une année, il y a 365 jours, puis on a X années à vivre sur la planète Terre, on n'a pas de date de péremption, mais on sait qu'on ne vivra pas 125, 140 ans. Alors, ça fait partie de nos limites. Puis, on a des limites aussi liées à chacun d'entre nous qu'on rencontre et qu'on découvre, entre autres, à travers des défis. Mais la raison pour laquelle c'est difficile d'en parler, c'est une peur énorme de l'échec dans une société qui valorise d'abord et avant tout la performance. Parce que quand on a l'impression de vivre des échecs, on a l'impression qu'éventuellement on va être rejeté, on va être exclu, on va par exemple perdre son emploi ou on n'aura pas la promotion dont on a rêvé, etc., etc. Donc, ou encore on sera plus reconnu, on sera plus apprécié, on sera plus aimé, on sera plus entouré d'attention, etc. Tout ça, là, ça fait partie de la façon dont on voit l'échec. Alors, c'est pas facile à rencontrer dans une société qui valorise sans cesse la performance, où ceux qui sont aimés, appréciés, c'est souvent le modèle qu'on nous envoie, sont ceux qui ont performé, qui ont réussi, qui ont gagné des prix, qui ont gagné des médailles, etc., etc. Alors, il y a toute une connaissance de soi, justement, à laquelle on est appelé.
Mais qui dépend beaucoup du regard des autres. Vous avez tout un chapitre, d'ailleurs, dans votre nouveau livre, « Je, connais-toi toi-même, oui, mais comment faire », où vous dites, finalement, le véritable confort, je vous cite, dépend de bien peu de choses. Dans le fond, c'est un abri, de la nourriture, des vêtements, du travail, contribuer au bien commun, des gens à aimer. C'est donc, parce qu'on en parlait d'ailleurs dans la première heure, là, de tous ces postes qui nous coûtent de plus en plus cher, mais qui sont tellement nos besoins primaires, là, se loger, se nourrir, bien vivre malgré tout. Vous dites ça, c'est pas très compliqué, mais dans le fond, aujourd'hui, que veut dire être quelqu'un? À notre époque, il semblerait que ça veuille dire être vu. C'est peu probable qu'à l'époque des cavernes, vous dites, nous ayons cherché à être vus. Ça serait plutôt le contraire. À l'époque, on voulait moins être vus. Mais aujourd'hui, c'est que vous dites, qu'est-ce qui est arrivé entre l'époque des cavernes puis aujourd'hui?
Ouais. Ben, il est arrivé l'apparition de notre ego.
C'est ça. L'homme des cavernes, il n'y avait pas d'ego, lui.
Ben,
il était tout nu. Il y avait une espèce de ceinture de peau qui avait chassé, puis ça faisait la job, là.
C'est ça.
Il n'y a pas besoin d'aller magasiner bien loin.
Non, mais une chose qui est importante aujourd'hui, c'est qu'on essaie de défendre, comme on essaie de défendre notre survie à l'époque des cavernes, aujourd'hui, on essaie de défendre les représentations qu'on a de soi-même, les images qu'on a de soi-même.
Ouais.
Puis on sait maintenant que le cerveau a tendance, c'est un philosophe indien qui s'appelle Krishnamurti qui disait que le cerveau avait une tendance naturelle à fabriquer des identités. Puis aujourd'hui, on en fabrique une multitude à travers des images qu'on a de soi-même. Entre autres, l'identification au travail a pris une place énorme dans la société. Et le problème, c'est que le cerveau, ben, il ne fait plus la différence entre une menace à la survie et une menace à une image qu'on a fabriquée de soi-même. Et au travail, présentement, là, s'il y a quelques jugements qui risquent d'être portés sur le travail qu'on fait, ben, on le perçoit comme une menace à ce que nous sommes, à notre être. Alors, ça aussi, ça explique en partie, là, la grande difficulté qu'on a présentement, là, à parler de santé mentale. Parce qu'on a l'impression qu'on va être jugé sur notre être parce qu'on a eu au travail un échec, ou on a commis une erreur, ou on n'a pas fait quelque chose de parfait. Ça aussi, c'est un autre problème. Hein. Dans une société qui vise constamment la perfection, on a fabriqué d'ailleurs beaucoup d'images parfaites. Là, les écrans qu'on a dans nos maisons nous envoient des images presque parfaites, et on s'en rend pas compte, mais on a l'impression que parce qu'on est devant des images parfaites à la télé, on peut nous-mêmes construire de soi des images parfaites. Et dès que ces images-là peuvent être jugées quelque part par un commentaire négatif, puis on le voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, ben on le vit comme une blessure profonde à ce que nous sommes. Puis se connaître soi-même, ben c'est ça, c'est faire la distinction entre les deux. On n'est pas les images qu'on a fabriquées de soi-même. C'est tellement important de constamment être vigilant puis vigilante par rapport à ça. Puis dans le monde du sport, ben s'il y a un endroit où on fabrique des images des gens, c'est bien là, hein. Il faudrait toujours qu'ils soient le premier, le meilleur, puis parce que on s'identifie à eux. Puis en s'identifiant à eux, ben on a l'impression que s'ils étaient les meilleurs, ben on serait nous-mêmes les meilleurs. Et c'est placer beaucoup, beaucoup de poids sur leurs épaules, parce que c'est comme si pour beaucoup de personnes, sans s'en rendre compte, on plaçait quasiment le sens de notre vie sur leurs épaules.
Vous, dans votre livre, vous citez beaucoup Félix Leclerc.
Oui.
Entre autres, vous dites, il a de lui une opinion assez extraordinaire. Dommage qu'il soit le seul. C'est Félix Leclerc qui a dit ça, bien sûr. Il y a plusieurs autres citations, entre autres celle-là. Son génie est de faire sa cour à ceux qui en ont. C'est toutes sortes de citations. Pourquoi Félix en particulier?
Félix Leclerc, pour moi, là, au-delà du grand poète, du grand artiste qu'on connaît, c'est d'abord et avant tout un grand sage qui a compris ce que ça voulait dire « connais-toi toi-même ». Le premier livre qui m'a marqué dans ma vie et que j'ai toujours avec moi dans ma bibliothèque, c'est « Le calepin d'un flâneur » de Félix Leclerc. C'est rempli de phrases associées à la connaissance de soi. C'est comme s'il avait connu Socrate puis qu'ils avaient marché ensemble pendant des heures et des heures. C'est assez fascinant. Et c'est pour ça que je le cite à répétition dans ce nouveau bouquin-là, parce qu'il m'a aidé beaucoup à écrire ce bouquin-là à travers sa sagesse. Il explorait l'ego humain, Félix Leclerc. C'est fantastique. Et puis, il nous donnait des outils à travers ces citations pour apaiser notre esprit, calmer notre esprit, parce que c'est ce à quoi la connaissance de soi doit conduire. Être capable de calmer notre esprit. Vous savez, Isabelle, moi, je suis fasciné parce qu'une phrase peut traverser notre tête, là, puis générer ce que j'appelle dans le livre une tempête neuro-hormonale qui crée immédiatement un inconfort. Puis en commençant le livre, d'ailleurs, je donne un exemple de ça. Je dis que mon père, le 21 juin ou le 22 juin, il se plaçait dans la fenêtre du salon, là, le jour le plus long de l'année, là. Puis des fois, il disait, les journées ont commencé à raccourcir. En une fraction de seconde, mon père devenait inconfortable, la journée la plus longue de l'année. Parce que cette petite phrase-là avait traversé son esprit, les journées ont commencé à raccourcir, puis avait déclenché un malaise, un inconfort. Bah, c'est plate, il va y avoir moins de lumière, etc. Et la connaissance de soi, là, ça peut permettre d'observer ces petites phrases qui traversent notre tête, puis d'apaiser notre esprit. Alors, imaginez dans un contexte là, de performance où constamment on sollicite la perfection, puis l'excellence, à quel point il y a une quantité phénoménale de phrases qui peuvent traverser notre tête.
Nous marquer, puis pas toujours dans le bon sens non plus.
Exactement.
Là. Il y a ça, là, ça devient. Puis c'est pour ça que c'est bien important de faire attention à ce qu'on dit à nos enfants. On peut les marquer pour le reste de leur vie, puis à leur tour, ces phrases-là, ils vont les répéter à leurs propres enfants. Serge Marquis, vous restez avec nous, Dr. Marquis, et j'en profite pour redonner aux gens nos numéros pour nous joindre, 514-790-9850. Vous faites le 1-866-790-9850 de l'extérieur de Montréal. Pour vous, on m'a dit que vous aimiez beaucoup celle-là de Félix. Attends-moi, petit gars.
Quand le patron te raconte que t'es adroit et gentil, sois sûr que t'es le nigaud qui fait marcher son bateau. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Il est jeune, il est joli, il est riche, il est poli. Mais une chose l'ennuie, c'est son valet qui a le génie. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou.
J'ai beaucoup, beaucoup de courriels de votre part. Vous m'écrivez et je sens que c'est peut-être plus facile d'écrire, de mettre des mots sur un épuisement professionnel que de le dire à la radio. Je vous encourage quand même à m'appeler puis à témoigner. On vous reconnaîtra pas. On peut changer votre prénom, il n'y a pas de problème. Ça peut faire du bien des fois de le dire à haute voix puis de le partager avec nous, avec le docteur Marquis, 514-790-9850. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. J'ai quelqu'un qui tient à rester anonyme. Ça vous enligne sur le tabou de ce sujet qu'on aborde aujourd'hui. Il me dit qu'elle vient d'avoir un diagnostic après une thérapie de plus d'un an. Puis le diagnostic de son médecin, c'est burn-out parental. Elle dit « J'avais jamais entendu parler de ça. » C'est les mêmes symptômes que ce que le docteur Marquis nous a présenté. Et c'est vraiment dû à la pression et aux responsabilités parentales. Ça, là, docteur Marquis, le burn-out parental, vous en avez entendu parler, j'imagine, vous, dans votre pratique?
Ben oui, bien sûr. Il y a encore le souci d'être le parent parfait, le parent qui performe comme parent. Donc, c'est très intéressant parce que sans qu'on s'en rende compte, on peut se mettre à mettre de la pression même sur les enfants, comme vous le disiez tout à l'heure. Autrement dit, pour que je sois le parent parfait, il faut que mon enfant, lui aussi, soit parfait.
Ouais.
Donc, qu'il ait des meilleures notes à l'école, qu'il n'y ait jamais de problème, etc. Puis, bon, c'est un piège dans lequel, sans s'en rendre compte, c'est très important, inconsciemment, on risque de tomber encore, puis c'est encore une fois, la connaissance de soi qui nous fait réaliser que la perfection, d'abord, ça n'existe pas. C'est un concept que le cerveau humain a fabriqué un jour, mais que ça n'existe pas, qu'on est des êtres humains, d'abord et avant tout, de s'accueillir dans la bienveillance à ce niveau-là, d'apprendre de ses erreurs, bien sûr.
Mais c'est pas facile de le faire toujours, Dr. Marquis.
Non, c'est
à cause de la fatigue et à cause de l'épuisement, je pense que ça crée des réactions qui, a posteriori, même à nous, nous semble effectivement injustifié. Des fois, on se dit, a posteriori, on se regarde et on se dit, mon Dieu, pourquoi j'ai dit ça de même? Pourquoi je l'ai dit comme ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Alors que dans le fond, c'était souvent des réactions à chaud de quelqu'un à bout, là. C'est vraiment ça, là.
Mais c'est déjà, là, ce que vous venez de dire, là, c'est tellement important parce que dès qu'on s'en rend compte pourquoi j'ai dit ça comme ça, là, on entre dans connaissance de soi, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on observe que dans sa tête, il a suffi d'une seule phrase pour que ça déclenche une réaction dans le corps qui, elle, est une réaction d'agressivité, d'hostilité, de colère, d'irritabilité et qui, malheureusement, sort tout croche. Et si on apprenait à observer cette espèce de réaction instantanée du corps qui perçoit une menace à son confort, parce qu'à la base, c'est souvent ça, l'enfant pleure, ouais. On ne sait plus quoi faire, on n'a plus de gestes ou de mots qu'on est capable de trouver, puis là, bon, on sent notre confort menacé, si vous voulez. À ce moment-là, ben le corps, lui, le cerveau, lui, il déclenche la tempête que j'appelle la tempête neuro-hormonale, ouais. Et ça nous met en état soit d'agressivité ou de fuite, on voudrait s'en aller de là, on voudrait fuir cette situation-là, on devient agressif. Mais ça sort en une fraction de seconde. C'est vrai que c'est difficile. C'est pour ça que ça demande de s'entraîner et d'être bienveillant avec soi-même. Parce qu'on trébuche, mais plus on s'en rend compte vite, plus on devient capable rapidement de changer notre façon de réagir ou de l'apaiser rapidement. Mmh. Et d'être capable d'être connecté justement sur son enfant, par exemple, puis d'être à l'écoute, d'être présent. Et ça fait en sorte que notre vie devient un peu plus facile à vivre pour nous et pour les autres.
On a Joanne avec nous. Bonjour, Joanne.
Bonjour, Isabelle. Ça va bien?
Oui, on vous écoute là-dessus. Vous avez fait un burn-out?
En fait, présentement, je suis en arrêt de travail à cause de ça.
Oui.
La pandémie, pour moi, ça a été très, très, très difficile. Et puis, au retour du travail, il y a 3 mois, un matin, je suis arrivée au travail et puis ma patronne, elle me demande comment ça va. J'ai éclaté en sanglots. Mm. J'ai dit, je pourrais pas te répondre. Je sais pas que te répondre. Je peux pas. Je sais pas. J'ai mal partout. J'ai mal à l'âme. Je sais pas. Tu sais. Puis là, ben, elle me dit, je pense que tu devrais retourner à la maison. Tu sais, fait que là, je suis retournée. Mais tu sais, moi, j'ai perdu 8 membres de ma famille cette année depuis 6 mois là. Tu sais.
À cause de la COVID, Joanne?
Non, du tout, tout. Subitement, le cancer.
Ah oui, d'autres facteurs. Ouais.
Oui, puis le dernier coup, le 14 octobre, j'ai perdu ma maman. Ça a été un moment très, très, très difficile pour moi.
Mm.
Je lui ai parlé le matin à 7h. J'ai reçu un appel au travail à 9h, comme du quoi que ma soeur avait trouvé ma mère à terre, comme ça. Ça a fait déborder le vase. Là, je me comprenais plus. Je savais plus où j'étais. On dirait que, tu sais, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'avais plus de ressources, je savais plus à qui j'appartenais, où je m'en allais, à qui m'accrocher, je savais plus, tu sais. C'est tellement difficile, là. Puis, tu sais, tu peux pas compter ça à tout le monde parce que moi, j'ai toujours été une personne super forte. J'ai jamais trébuché dans rien. J'ai un gros passé très, 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 très difficile à cause des choses que j'ai vécues dans mon passé, mais j'ai toujours réussi à passer à travers. Puis là, je me disais, j'ai tombé. Comment ça se fait que moi, j'ai tombé, tu sais?
Ouais.
Ma patronne, elle m'a fait comprendre, tu sais, que C'est pas que t'as tombé, c'est que ton corps, il est fatigué puis il en peut plus.
Ouais, effectivement. Vous avez une bonne patronne parce que je pense que c'est vrai ce qu'elle vous a dit. Merci, Joanne. Puis je vous souhaite de prendre le temps de vous refaire une santé. Prenez soin de vous. Merci beaucoup de ce témoignage. Et justement, Dr Marquis, vous me permettrez, on va se tourner vers la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Christine Groulx, à qui on a parlé au cours des derniers mois de cette pandémie. Bonjour, Christine.
Bonjour Isabelle.
Je voulais vous parler parce que il y a beaucoup de gens là qui m'écrivent puis qui me disent j'aimerais, puis c'est bien parce que Joanne l'a formulé, elle a dit on peut pas raconter ça à tout le monde. Puis il y a bien des gens qui me disent j'aurais besoin d'avoir des services. J'aimerais pouvoir aller le dire à un psychologue, je suis pas capable de trouver quelqu'un à qui me confier, à qui. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens là-dessus là, des gens qui se sentent peut-être sur le bord de l'épuisement comme un travailleur sur trois là selon ce sondage qui sort aujourd'hui, c'est beaucoup de monde qui vont pas bien là.
Oui. Ben la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'épuisement, hein, ça peut être assez près en termes de symptômes de la dépression. Fait que c'est important d'essayer de distinguer les deux. Puis l'épuisement, c'est surtout, ça se passe surtout avec des gens qui ont une estime d'eux-mêmes qui est reliée à leur fonction. C'est des gens qui sont très perfectionnistes, qui ont un niveau d'exigence élevé, puis qui surinvestissent aussi une sphère de leur vie, notamment le travail. Mais c'est aussi des gens qui vont avoir tendance à culpabiliser beaucoup, à se responsabiliser beaucoup. Donc, c'est des gens qui sont très exigeants envers eux. Mm-hmm. Et souvent, qui se retrouvent dans un contexte où ben ils n'ont pas beaucoup de reconnaissance, ils n'ont pas beaucoup de rétroaction positive. Et il y a un déséquilibre entre les attentes qu'on a envers eux ou qu'ils ont envers eux-mêmes, puis les moyens qu'ils ont pour y parvenir. Et quand on regarde un petit peu dans quel contexte les gens ont travaillé cette année, ben c'est sûr qu'on a, je vous dirais, un terrain fertile là, pour s'épuiser.
Mais une fois qu'on a tout ça, puis il y a beaucoup de gens, les étapes du burn-out, Dr Marquis nous les décrivait tout à l'heure. Un, d'avoir des objectifs irréalistes. Deux, d'avoir l'impression de pas répondre aux attentes. Trois, là, on est désillusionné, voilà. Et quatrième, ben là, c'est le découragement total. On fonctionne plus. C'est le burn-out officiel, l'épuisement professionnel ou parental. Face aux responsabilités qu'on a. Là, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mon Dieu, j'ai les quatre ». Une fois qu'on a les quatre, qu'est-ce qu'on fait, Dr Groulx?
Bien, la première chose qu'on fait, c'est qu'on essaie autant qu'on est capable de remettre les choses en perspective. Parce que ce qui se passe dans ce temps-là, et c'est ce que vous décrivez, c'est-à-dire c'est que les gens ont des biais cognitifs. Ça, c'est des erreurs de pensée. Mais c'est des erreurs de pensée qu'on prend très au sérieux. Par exemple, je suis pas adéquate, je suis pas bonne, je suis pas une bonne mère, je suis pas une bonne employée, bon, etc., etc. Ou j'ai pas réussi, c'est mon échec. Et souvent, c'est pas mon échec, c'est n'importe qui aurait été en échec. Fait que des fois, juste de prendre du recul puis de dire, si je voyais mon meilleur ami ou ma meilleure amie en pareille situation, comment j'analyserais la situation? Puis qu'est-ce que je lui dirais? Et ça s'appelle prendre du recul. Puis c'est difficile à faire quand on est submergé par l'émotion. Fait que quand on n'est pas capable de faire ça, évidemment, d'aller consulter, c'est un bon réflexe, mais de trouver une oreille attentive dans notre environnement aussi. Puis une oreille attentive, là, c'est quelqu'un qui va écouter sans juger, mais c'est quelqu'un qui est capable de nous aider à réfléchir aussi. Quand on est capable d'avoir ça dans notre environnement, des fois, ça peut aider. La consultation est une option, mais actuellement, vous avez soulevé le problème, les bureaux, des psychologues, des professionnels qui traitent la santé mentale débordent. Nous, nos psychologues sont débordés. Écoutez, il y a des gens qui me disent, j'ai 10 nouveaux appels par jour de personnes en détresse. Et je ne suis pas capable de faire de la place à tous ces gens-là. Et ça, c'est une nouvelle réalité parce qu'il faut comprendre que la pandémie a amené, je vous dirais, entraîné son lot de non seulement de détresse, mais de problèmes de santé mentale. Et c'était anticipable, puis c'est très explicable, mais notamment au niveau de l'anxiété, puis de la dépression, des difficultés d'adaptation, puis des difficultés interpersonnelles. Donc, les gens vivent énormément de tensions. Ça ne veut pas dire que tout le monde ne va pas bien. Ça ne veut pas dire que tout le monde est malade, mais il y a plus de personnes qui se sentent pas bien actuellement.
Ah oui, merci beaucoup. Christine Groulx est présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. On s'arrête ici. On va conclure sur notre sujet tout de suite après ceci. Merci à tous pour vos fabuleux témoignages. J'ai Christiane qui m'écrit. J'ai pas honte de dire que j'en fais une présentement là, de dépression. Je pense pas que ce soit un signe de faiblesse, bien au contraire. On accuse des coups, on passe au travers d'épreuves, on reste fort, mais notre corps, à un moment donné, nous donne le signal qu'on lui en a trop demandé. Et quelquefois, ça prend ça pour nous arrêter et prendre le temps de se refaire. Je trouve que ça résume bien, Dr. Serge Marquis, ce qu'on doit dire aux gens peut-être en conclusion, puis j'ai envie de dire, on va pas conclure sur ce sujet parce qu'on va être obligé d'y revenir. J'ai beaucoup de gens là qui m'ont écrit, qui m'ont témoigné là de ce qu'ils vivaient, beaucoup de détresse, puis c'est confirmé par la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, tout ce que vous nous avez dit, et surtout le fait, docteur Marquis, qu'on n'a pas les moyens d'aller vers quelqu'un à 135$ de l'heure pour 50 minutes, un psychologue, c'est clair que c'est pas tout le monde qui a accès à ça, là.
Ouais, puis en plus, même s'il y avait des psychologues qui chargeaient moins cher présentement, là, comme le disait la présidente de l'Ordre, ils sont très difficiles d'accès, ils sont débordés, ils reçoivent une quantité phénoménale de demandes chaque jour. Mais elle a aussi dit qu'on pouvait trouver des oreilles qui ne nous jugeaient pas. Et avant l'arrivée des psychologues sur la planète Terre, j'ai envie de dire ça comme ça parce que ça a à peu près
qu'est-ce qu'on faisait? Oui, c'est une bonne question. Oui.
Ah oui. Alors on faisait quoi? Puis ben il y avait la grande oreille, puis il y avait l'écoute attentive de l'autre et une écoute attentive qui ne jugeait pas l'autre et qui faisait en sorte qu'on pouvait aussi à travers ça cesser de se juger soi-même, comme le disait aussi la dame tout à l'heure. Mm. Parce que et c'est ça qu'on doit réapprendre sans cesse à faire en observant ce qui se passe dans notre tête. On découvre qu'on juge beaucoup soi-même. On découvre aussi les jugements qu'on porte sur les autres qui parfois peuvent être des jugements chez une personne qui est déjà en détresse. Et ça, c'est pas aidant, là, de juger une personne déjà en détresse. Alors, la connaissance de soi, là, Socrate et Félix Leclerc et plein d'autres personnes qui en parlent depuis longtemps, nous invitent à observer ce qui se passe dans notre tête, puis à apaiser les jugements sur soi-même dans un monde où on nous invite constamment à la perfection, puis à la performance, puis à l'excellence à tout prix, et de redevenir des êtres humains que nous sommes.
Vous parlez de cette époque qu'on n'a pas connue, mais c'est ça, il faudrait se reposer la question, comment ils faisaient avant, puis peut-être qu'on a jeté beaucoup de choses de l'organisation, de la famille d'avant, mais il y a des choses, sans vouloir ramener là, les vieux modèles, il y a peut-être du bon là-dedans, tout n'était peut-être pas à jeter.
le soutien social, c'est fondamental, et ça, on peut le trouver auprès des gens qui nous entourent.
Docteur Serge Marquis, vous êtes formidable. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous. Merci à tout le monde. Bonne journée.